est 6h à Paris, 4h en temps universel. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
Une nouvelle demi-heure d'actualité avec vous et à la une, ces nouvelles frappes américaines sur l'Iran.
Et pour la 11e nuit consécutive, les États-Unis n'en ont pas fini avec cette guerre, dit Donald Trump, et la facture s'alourdit pour le Pentagone. Le ministre de la Défense a réclamé hier une rallonge au Congrès. En Inde, le mouvement de contestation du parti des cafards s'élargit au sein de la population, mais aussi dans ses revendications. On est aussi à Amdafok dans ce journal, ville du nord de la Centrafrique, encore meurtrie par l'attaque d'un groupe rebelle il y a 3 semaines. Et puis, en France, la ministre de l'écologie va présenter tout à l'heure sa démission. Monique Barbu s'opposait à l'adoption d'une mesure controversée dans la loi d'urgence agricole. En Iran, la nuit troublée par de nouvelles frappes américaines, la défense anti-aérienne a été activée à Téhéran. L'agence iranienne IRNA fait état d'explosions dans le sud et le nord-ouest, mais aussi dans la ville de Bushehr où se trouve une centrale nucléaire. Les États-Unis n'en ont pas fini du tout avec la guerre, a dit hier Donald Trump. Cette guerre, déjà, devrait coûter 37,5 milliards de dollars jusqu'à fin septembre. C'est ce qu'a estimé Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense. Devant le Congrès, il y a quelques heures, il a demandé le déblocage d'une grosse enveloppe pour le Pentagone. Correspondance aux États-Unis de Loubna Anaki.
Il nous faut 67 milliards de dollars. C'est la demande formulée hier par Pete Hegseth devant une commission du Congrès. Le secrétaire à la Défense estime cette enveloppe cruciale pour le fonctionnement du Pentagone et pour la poursuite de la guerre contre l'Iran.
Cette demande est urgente et nécessaire pour répondre aux besoins urgents de notre département.
Mais la séance n'a pas été sans entrave. À plusieurs reprises, Pete Hegseth a été interrompu par des manifestants. Illustration une nouvelle fois de l'impopularité aux États-Unis de cette guerre contre l'Iran. Le secrétaire à la Défense a aussi dû répondre aux critiques de sénateurs démocrates sceptiques quant à la demande de milliards de dollars. Pourquoi les Américains devraient continuer à financer une guerre pour laquelle le président n'a pas obtenu l'autorisation du Congrès, a notamment lancé la sénatrice Patty Murray, des échanges qui ont donné lieu à des moments tendus.
You, sir, are the failure.
Vous, monsieur, vous êtes un raté. Quand allez-vous faire preuve de leadership?
Où est votre leadership quand vous, démocrates, refusez de soutenir les troupes? Donnez-nous l'argent.
You don't give us the money.
C'était la première fois depuis plus de 2 mois que Pete Hegseth venait s'expliquer devant le Congrès sur la guerre en Iran. Tout cela alors que la situation s'enlise et que le bilan des pertes américaines s'alourdit. Loubna Anaki, New York, RFI.
Une guerre qui s'est élargie jusqu'au Liban dès le mois de mars avec des affrontements entre Israël et le Hezbollah, soutien de Téhéran. Hier à Washington, Donald Trump a reçu son homologue libanais, Joseph Aoun, pour parler de l'accord de paix signé il y a près d'un mois entre le Liban et Israël, accord sous médiation américaine. Non reconnu par le Hezbollah, cet accord prévoit le désarmement du groupe chiite et également un retrait progressif de l'armée israélienne dans des zones pilotes du sud Liban en échange d'un déploiement dans ces zones de l'armée libanaise. Ce déploiement a commencé hier à l'occasion de cette rencontre à Washington, mais l'armée libanaise a dénoncé des tirs israéliens. On en reparle plus largement dans une heure avec notre correspondant à Jérusalem. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi reste silencieux face à une contestation qui, elle, est de plus en plus bruyante. Le parti des cafards, mouvement lancé sur les réseaux sociaux, réclame une réforme du système universitaire et le renvoi du ministre de l'Éducation. Et désormais, la sphère politique s'empare du mouvement. Hier, le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a demandé la démission du Premier ministre au lendemain d'une grande manifestation violemment réprimée par la police. Christophe Jaffrelot est spécialiste de l'Inde. Il note que cette contestation se propage jusque dans le fief de Narendra Modi.
C'est un mouvement qui a pris une ampleur considérable, d'abord parce que sont descendus dans la rue des milliers et des milliers de personnes, 100 000 à New Delhi hier. On est quand même maintenant aussi interpellé par des manifestations similaires à travers le pays, y compris dans la circonscription de Narendra Modi à Benares. Et puis on a dépassé la seule revendication initiale, la démission du ministre de l'Éducation. C'est maintenant Narendra Modi lui-même qui est mis en cause. Et donc ce même Premier ministre au pouvoir depuis 12 ans maintenant n'a pas répondu aux attentes. 2014, c'était vraiment la lune qui était promise à tout le monde. Le grand problème de l'Inde, c'est l'emploi des jeunes. Donc ce sont des étudiants et des jeunes chômeurs que l'on retrouve majoritairement dans la rue.
Christophe Jaffrelot avec Mélissa Barra. L'armée ukrainienne a un nouveau commandant en chef. Le président Volodymyr Zelensky a nommé hier Mykhailo Drapaty après avoir limogé Oleksandr Syrsky, très critiqué ces derniers mois. Et cette destitution intervient après des jours de manifestations contre un autre limogeage, celui du populaire ministre de la Défense, Mykhailo Fedorov. Plus de 4 ans après le début de l'invasion russe à grande échelle, les combats sont toujours acharnés dans l'Est. Les pertes civiles, elles, sont en augmentation. Et dans cette guerre, l'Union européenne prépare un 21e paquet de sanctions contre la Russie pour peser sur son effort de guerre. Ces sanctions doivent concerner le transport de GNL, le gaz naturel liquéfié. Mais la Grèce s'y oppose pour l'instant car certaines compagnies maritimes du pays dépendent de ce transport. L'UE espère trouver un compromis aujourd'hui lors d'une réunion à Bruxelles. Emmanuel Stils.
Qu'est-ce qui pousse la Grèce à bloquer une série de sanctions qu'elle avait pourtant validées dans un premier temps ? Quand on parle de pression sur le gouvernement et d'intérêts économiques en Grèce, les armateurs ne sont jamais loin. À partir du 1er janvier 2027, l'Union européenne entend interdire l'importation et le transport de gaz naturel liquéfié originaire de Russie. Une restriction qui frapperait de plein fouet la compagnie grecque Dynagas du milliardaire Georges Procopiou, qui affrète des navires transportant le GNL russe. La Grèce argumente pourquoi céder un tel marché à des pays non européens. D'après Konstantinos Filis, directeur de l'Institut d'affaires internationales à Athènes, les 27 doivent mettre en place des sanctions effectives contre la Russie, mais sans porter préjudice à leurs propres entreprises.
Il faut souligner que la Grèce fait exactement ce que d'autres pays européens ont fait avant elle en protégeant leurs intérêts commerciaux. Ce n'est pas seulement des questions de géopolitique qui entrent en jeu. Il faut aussi prendre en compte la protection des intérêts économiques nationaux.
Plusieurs pistes sont explorées pour lever le veto grec et les armateurs pourraient obtenir gain de cause. Il est question d'un délai accordé aux transporteurs de GNL, voire d'une suppression pure et simple de la mention interdisant le transport. Emmanuel Stils, Athènes, RFI.
En Centrafrique, la situation humanitaire reste préoccupante à Amdafok, dans le nord-est, à la frontière avec le Soudan. Il y a 3 semaines, des combats ont opposé les rebelles de l'ASP, l'Alliance du sursaut patriotique, à l'armée centrafricaine. Cette dernière contrôle la ville avec ses alliés, mais cet épisode a laissé de profondes cicatrices. Plus de 16 000 habitants sont toujours réfugiés près de la base de la MINUSCA. 2000 autres ont fui vers Birao. Rolf Stef Domialeux s'est rendu à Amdafok.
Avec l'appui de la MINUSCA et les FACA, nous avons fait le tour de la ville pour toucher du doigt les impacts de cette crise.
À Amdafok, il ne reste qu'un paysage de désolation. À chaque pas, Thierry Evariste Benguenindi, gouverneur de la région du Ferti, est bouleversé.
Aucun bâtiment administratif n'est resté. Les écoles, le marché, la gendarmerie, la police, même le bureau du sous-préfet qui vient d'être construit par la MINUSCA, ils ont saccagé tout.
Même si des moustiquaires et des tentes sont distribuées à la population, les besoins humanitaires demeurent immenses.
Mais j'ai vu même les enfants malades qui sont venus, qui sont couchés à même le sol. Il n'y a pas d'eau. Surtout le vivre et la santé, ça m'a vraiment touché, quoi.
Le tissu social est bouleversé. Bouba Kaïda, un habitant d'Amdafok qui a perdu sa femme et sa maison, ne veut plus revivre une telle crise.
Dans la Vakaga, nous avons trop souffert. La guerre a détruit notre région. Nous ne voulons plus de crise.
Malgré cette détresse, le gouvernement se veut rassurant auprès de la population.
Le gouvernement ne les oublie pas. Si moi-même je suis arrivé jusqu'ici, jusqu'à Amdafok, c'est le gouvernement. Et on est en train de se battre, tout ira dans l'ordre.
L'effectif des forces armées centrafricaines continue d'être renforcé afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de la préfecture. Rolf Estef Domialeux, de retour d'Amdafok, RFI.
RFI 6h09 à Paris. En France, la ministre de l'écologie va présenter aujourd'hui sa démission. Monique Barbu claque la porte du gouvernement. Après l'adoption de la loi d'urgence agricole, elle s'opposait à un volet du texte qui réautorise 2 pesticides. Monique Barbu ne sera restée que 9 mois au ministère pour un bien maigre bilan, Jeanne Richard.
L'absence de Monique Barbu des bancs de l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi agricole est à l'image de son passage au ministère de la Transition écologique, tacle Stéphane Kerkhoff, directeur d'Agir pour l'environnement.
À chaque fois qu'il y a eu une crise écologique, elle a été aux abonnés absentes. Et c'est vrai que dans un gouvernement relativement réfractaire aux questions d'écologie, on avait besoin d'un ministre de combat extrêmement présent, extrêmement politique. Or, Monique Barbu, c'est quelqu'un qui n'a pas imprimé et qui n'a pas été à la hauteur des enjeux.
Connue pour son franc-parler, avec parfois des maladresses, elle s'est retrouvée isolée, sans relais au Parlement ni au gouvernement, défend Anne Bringot, coordinatrice du réseau Action Climat.
Son ministère a été complètement démembré par rapport au ministère de la Transition écologique il y a quelques années. Vous n'avez plus les transports, vous n'avez plus le logement et vous n'avez plus l'énergie. On voit bien que la transition écologique n'est pas une priorité du Premier ministre et donc malheureusement l'action d'une ministre en charge de la transition écologique dans ce contexte est forcément limitée.
Qui défendra l'action climatique et l'environnement lors de l'adoption du budget à la rentrée, à quelques mois de la présidentielle, se demande la militante, alors que la France est frappée par des canicules historiques, une grave sécheresse et des feux sans précédent.
40 000 hectares de forêt ont été brûlés justement cette année, c'est déjà plus que sur l'année 2025 en ce moment. Un vaste incendie continue de progresser dans le Var, département du Sud-Est, plus de 1 700 hectares ont été détruits, il menace plusieurs communes. Un nouveau coup dur pour l'économie cubaine. Le groupe hôtelier espagnol Melia met un terme à ses activités dans le pays. Ce sera à partir de ce vendredi. La société déplore d'importantes difficultés qui l'empêchent d'opérer convenablement sur l'île. L'île toujours sous la pression croissante des États-Unis. Anne Verdaguer.
Ce retrait intervient dans un contexte de durcissement spectaculaire de la politique américaine à l'égard de la Havane. Le décret du 1er mai dernier élargit en effet les sanctions aux entreprises, personnes et institutions financières réalisant ou facilitant certaines transactions avec des entités cubaines sanctionnées. Pour Jérôme Leleu, économiste spécialiste de Cuba, l'exemple de Melia pourrait en entraîner bien d'autres.
On a eu de nombreuses annonces d'entreprises étrangères qui ont quitté Cuba entre la fin mai et le 4 et 5 juin. Hein. On avait eu déjà donc en partie Melia, mais également d'autres chaînes touristiques comme Iberostar ou également une chaîne indonésienne. Donc effectivement, on peut avoir là dans les jours et les semaines qui viennent d'autres annonces, toujours dans le secteur touristique, vu que le ministère du tourisme est ciblé encore par les nouvelles sanctions des États-Unis, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs parce que le contexte économique et politique et géopolitique fait que pour une entreprise étrangère, aujourd'hui, investir à Cuba ou continuer à investir à Cuba est risqué financièrement pour elle.
Le secteur touristique cubain a perdu 30 à 50% de visiteurs étrangers depuis le début de l'année. Le tourisme est l'une des principales sources de revenus de l'île et emploie entre 20 et 30 000 personnes sur place.
Anne Verdaguer, RFI 6h13 à Paris. On reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes.
RFI, toute l'actualité.
Marion Casanov.
On sera en Roumanie pour le reportage international où un genre musical divise la population. Le manele, d'origine balkanique, est souvent associé à la communauté rome. Cette musique est globalement toute une culture, est encore rejetée par une partie des Roumains. À suivre également le troisième épisode de notre série sur les temps forts des dernières présidentielles en France. Ce matin, on parle du scrutin de 2012 avec l'élection de François Hollande, le président normal. C'est la comédie de l'été en France, de la comédie française. Le film sort aujourd'hui et propose une satire de l'institution culturelle avec les sociétaires de cette institution qui font preuve d'autodérision. Et puis on fera un tour dans la playlist de RFI avant un nouveau journal d'actualité africaine. La communauté rome est victime de discrimination depuis des siècles. Les initiatives pour leur intégration se multiplient dans le pays, mais les idées reçues, les stéréotypes sont encore bien présents, comme ceux sur la culture rome, notamment le manele, un genre musical d'origine balkanique, souvent chanté par des roms et donc associé à cette communauté. C'est pourtant une musique très populaire, on l'écoute dans les mariages, dans les baptêmes, et ces musiques cumulent des millions de vues sur YouTube. Reportage à Bucarest de Guillaume Bernès.
Dans un studio de Bucarest, le chanteur Vlad Babacha attend avec impatience son concert au Festival Galaxia. Il y a encore quelques années, voir un artiste de manele à l'affiche d'un grand festival aurait été impensable.
Dans les années 2000, c'était très difficile d'admettre qu'on écoutait du manele parce que cette musique était chantée principalement par des Roms. Mais aujourd'hui, on en entend partout, dans les festivals, sur TikTok, sur Instagram. Il y a même des publicités avec du manele. C'est pour cela que les gens l'acceptent davantage.
Mariage, baptême, anniversaire, ce genre musical d'origine balkanique est omniprésent dans les fêtes roumaines. Pourtant, malgré son immense succès, le manele continue de diviser. En 2024, lorsque le groupe Coldplay invite Babacha sur scène à Bucarest, une partie du public le hue pendant sa prestation.
À mon avis, on ne peut pas détester le manele pour sa musique. Il y a forcément autre chose.
end. My life's changed, I don't know how. I don't know how to breathe. I don't know how to smile. And now I'm gonna retaliate on you. Retaliate. I'm gonna retaliate on you. Retaliate. Now you're dancing alone, but you prefer dancing alone to dancing with me. And I feel sorry, but you are dancing alone. But you prefer dancing alone to dancing with me. And I feel sorry. Well, I've drunk so much, I kissed a different girl each night. But we don't find love in a bottle of wine. And now my life has changed. My life has changed. I don't know how. I don't know how to breathe. I don't know how to smile. And now I'm gonna retaliate on you. Retaliate. I'm gonna retaliate on you. Retaliate. But now you're dancing alone, but you prefer dancing alone to dancing with me. And I feel sorry, but you are dancing alone. But you prefer dancing alone to dancing with me. And I feel sorry. But she said
écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Can you believe it? Do you see that you're a champion?
Yes, I believe it.
rabais qui rappe les campis quand si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à la critique et tout ton entourage alors que t'es la moyenne des 5. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent. Plein de projets pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les 100 pas. C'est pas de la danse, c'est juste qu'ils s'appellent samba. Calé dans le cortège avec tous les 100 pas. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. Ses yeux rouges sur peau d'ébène. La fabrique est à revoir vu tous les taffes. Levé de l'extrême. Levé de l'extrême droit.